Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
Vous écoutez
Martino,
Cube Radio.
Alors, une lettre ouverte importante qui a été publiée dans Le Devoir hier par 7 professeurs de droit à l'Université d'Ottawa, et je vais vous reciter là, un extrait de cette lettre-là. On nous informe que celle ou celui d'entre nous qui abordera un thème, montrera une image, prononcera un mot, rappellera une loi ou jurisprudence ayant pour effet de provoquer un sentiment subjectif d'agression chez un étudiant, pourra être publiquement ostracisé comme raciste, antisémite, islamophobe, antichrétien, sexiste ou agiste, sans la protection de son institution. Et il y a quelqu'un qui, depuis longtemps, là, tout le monde allume, là, sur la censure dans les campus universitaires. Mais ça fait longtemps qu'il y a des gens qui le disent, et Philippe Lorange, un jeune courageux, jeune étudiant en sciences politiques et en philosophie de l'Université de Montréal, qui avait publié un texte qui avait fait beaucoup parler, puis c'était un des premiers coups de semonce là, sur justement la liberté d'expression qui était en danger dans les universités. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour, ça va bien?
Ben ça va très bien. Toi, c'est un peu de la musique à tes oreilles, là, ce qui se passe, parce que tu dis, ben je l'avais dit, là, je l'avais dit que le feu était poigné dans la maison.
Ben oui, absolument. Mais en fait, j'ai l'impression que la gauche frappe son chemin de Damas. C'est-à-dire qu'ils ont nié pendant 20 ans ce que nous crions de tout bord, tout côté. Puis là, tout à coup, on vient de découvrir qu'il y a de l'intimidation, de la censure. C'est comme si on est en train de découvrir une réalité qui est pourtant assez évidente pour des nationalistes et des gens de droite depuis longtemps.
Ben oui, mais comment ça se fait que les conservateurs, mettons, disons ça comme ça, les nationalistes, les gens de droite, ils disent le feu poigné dans la maison, on les écoute pas, mais quand soudainement c'est quelqu'un de gauche, là on appelle les pompiers. C'est bizarre.
À ce moment-là, je pense que c'est tout simplement parce que peut-être que la droite est tout simplement disqualifiée du débat public. Évidemment, on a des tribunes comme ici à Cube Radio, Québécois, tout ça, mais le système médiatique qui prescrit la norme, qui prescrit le débat public, lui, il disqualifie le débat public. Puis pour donner un exemple de ça, récemment, quand on veut parler de censure dans les médias en ce moment, on va juste aller voir des progressistes qui vont nous parler de censure progressiste. Mais c'est comme si il faut s'opposer à la censure toujours pour des raisons progressistes, toujours dans le même cadre de pensée, la même grille d'analyse. Donc, on va jamais voir, par exemple, Mathieu Bocoté qui en parle depuis des années. On va pas voir Jean Sévillia qui parlait déjà en 2004 de terrorisme intellectuel. On va pas voir ces gens-là.
Non, c'est particulier. Et là, bon, on dit que le cancer de la rectitude politique, le cancer du woke, du mouvement woke, est en train là même de menacer les études de droit, les départements de droit. Puis on se dit, bon, en département de sciences humaines, en sociologie, là, les sciences molles, pas de maths, là, comme on dit, là. À la limite, c'est comme ça surprend personne là, qu'ils sont tous poignés dans ça. Mais là, tu dis, là, ça touche un département, là, le droit. C'est quand même, ça devient grave, là.
Oui, mais ça m'étonne pas forcément, le droit, étant donné que en ce moment, on vit dans un système un peu de droit très fort. Là. Aujourd'hui, on vit sous le gouvernement des juges, puis le droit passe au-dessus des décisions de la majorité populaire, qui est vue comme dangereuse. Mais justement, le droit, c'est quand même une discipline qui est quand même sérieuse, puis qui donne des avocats, qui donne des professions qui sont assez importantes dans notre société. Donc, c'est certain qu'il y a quelque chose d'assez grave là-dedans.
Mais là, un prof de droit, là, mettons, il lit une jurisprudence, il lit un texte de droit, il devrait pas le censurer. C'est Frédéric Bastien, l'historien, candidat à la chefferie du PQ, qui avait sorti là une jurisprudence, en fait, un avis de la Commission des droits de la personne. Dans l'avis, le mot nègre, le mot en N, revenait une vingtaine de fois. Fait que là, Frédéric Bastien disait ça veut dire qu'un prof de droit ne pourra pas lire cet avis-là de la Commission des droits de la personne en classe parce que il pourrait heurter les sensibilités de certains étudiants.
Bien, en plus, ce qui est drôle, c'est que justement, tu sais, dans l'article que vous m'avez envoyé, justement, à l'Université d'Ottawa, on dit qu'il y a de l'intimidation, puis justement, on voit des anglophones traiter les professeurs francophones de « frog ».
Ben oui.
Donc là, ça, par contre, ça passe, mais « nègre », ça passe pas. Pourtant, De toute façon, ce mot-là n'était pas utilisé dans le vocabulaire courant des Québécois.
Ben non, c'est pas... On se bat pas pour utiliser ce mot-là à radio puis tout ça, puis pour pouvoir insulter le monde. C'est pas ça. On se bat pour dire, ben il y a des mots qu'on devrait utiliser dans un cadre pédagogique, là.
Absolument. Puis là, c'est parce que le problème, c'est que je pense que là, on est juste au début des choses. Parce que si on bannit un mot, ben ça va continuer, on va aller plus loin, on va dire par exemple, je sais pas moi, une femmelette, ça se dit plus parce que c'est sexiste, une tapette, ça se dit plus, c'est homophobe. Puis là, on va commencer à bannir des mots comme dans le livre fameux 1984. On bannit des mots pour bannir de mauvaises pensées.
Et là, j'ose même pas là imaginer c'est quoi être professeur d'histoire. Parce que j'en parlais un peu plus tôt à LCN avec Jean-François Guérin. Il y a eu des films, par exemple, des films de propagande nazie où on comparait les Juifs à de la vermine. Et on disait, si vous avez de la vermine dans la maison, ben vous hésiterez pas à utiliser du poison pour tuer la vermine. C'est la même chose dans une société. Les Juifs, c'est une vermine, il faut les gazer. Bon, j'ai vu ces films de propagande-là. Ça lève le cœur, c'est absolument écœurant. Mais comme professeur d'histoire, tu as, à la limite, le devoir de les montrer à tes étudiants pour montrer l'ignominie de ce régime-là. Mais là, s'il y a un étudiant qui dit, ah, c'est épouvantable, je me suis senti heurté, bousculé, agressé, et là, porte plainte contre le prof d'histoire, où c'est qu'on s'en va, Christy?
Oui, bien c'est ça le problème, ça va pas mal loin, parce que, justement, l'hypersensibilité, elle est sans fin, puis plus on s'enferme, plus on devient hypersensible.
Ben oui.
Donc, tandis que si on s'exerce à faire face à des défis, à des obstacles, ben c'est là qu'on peut devenir plus fort. Tu sais, moi, quand je vois, quand j'étais à l'université, ben j'y suis encore, mais là, je compte plus de collègues, étant donné que tout est en ligne, mais j'entendais souvent de me dire que les Québécois sont racistes. Eh bien, sincèrement, ça me heurte, parce que je sais que c'est faux, puis je trouve ça insultant pour mon peuple. Mais au lieu d'insulter la personne, ben je lui explique qu'à mon avis, c'est complètement faux. Mais c'est un peu la même chose si, par exemple, une personne entend le mot nègre comme une insulte, ben elle peut simplement faire face au défi, puis au lieu de crier à l'hypersensibilité.
Ben écoute, là, à un moment donné, là, il va falloir dire à certaines personnes, là, si t'es trop sensible pour aller à l'université, ben vas-y pas. L'université, c'est pas pour les momones. Puis là, quand je dis momones, je dis pas gay et homosexuel. Le momone, je dis des gens sensibles. C'est pas pour les momones, l'université, là, parce qu'on va vous montrer des choses laides à l'université. On va vous montrer dans les cours d'histoire à quel point c'était épouvantable dans certaines époques. Puis il faut que vous le preniez. Puis si t'es pas capable, ben va-t'en fleuriste. Va-t'en clown, va pas à l'université, non?
Non, c'est ça. Mais en fait, si on écoute la rectrice de l'Université Laval, on va défendre la liberté, mais une liberté bienveillante. Mais je me demande
c'est quoi
ce que tu veux dire, ça, liberté bienveillante, parce que justement, on se soumet, je pense, à les personnes que tu décris comme momoun, parce que c'est toujours dans l'idée de penser à elles, d'être sûr de pas les heurter.
Mais oui. Non, mais là, c'est qu'il suffit qu'une personne dise « je me sens agressé » pour que ce que tu as dit devienne objectivement une agression. Donc, oui. il va falloir qu'un prof tienne compte de la sensibilité de chaque étudiant qui est devant lui. Come on!
Ben, c'est encore drôle parce que je pense pas que la sensibilité des gens, justement, nationalistes ou plus conservateurs va être prise en compte. Là,
non.
Je pense que c'est plus la diversité, comme on dit, des personnes racisées qui va être tenue en compte, mais celle de la diversité idéologique, celle-là, on n'en tient pas vraiment compte.
C'est ça, si on parle, mettons, de...
une sorte de complexité de cas. Là.
Si on parle d'une époque, mettons, où on traitait les Québécois de frogs, toi, tu te sens heurté comme nationaliste, je suis pas sûr que tu vas être aussi entendu, tu vas être entendu avec autant de bienveillance qu'un autre.
Ah, pas du tout, pas du tout. Au contraire, on va me traiter de suprémaciste blanc, probablement, ou de nationaliste blanc.
Et Patrice Roy, là, qui a écrit là, le lecteur de nouvelles de Radio-Canada, qui a écrit, oui. Là, il a félicité une femme qui a parlé de la liberté d'expression en disant ça, c'est de la liberté d'expression progressiste. C'est bon, ce n'est pas de la liberté d'expression réactionnaire. Mais c'est quoi ça, la liberté d'expression réactionnaire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Mais en fait, justement, ça m'a fait penser à une belle phrase de Tocqueville qui disait « Qui cherche dans la liberté autre chose qu'elle-même est fait pour servir. » Puis là, ça me fait rire parce que justement, Patrice Roy nous dit une liberté, mais pas une liberté réactionnaire. D'accord, mais moi, je crois à la liberté tout court. Je crois que les gens de toute tendance ont le droit de s'exprimer, que ce soit des réactionnaires ou même des gens plus extrémistes comme des communistes. Je comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Puis il ne nous a pas encore éclairé sur qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais je suis, surpris de voir à quel point, encore une fois, il y a vraiment un système médiatique qui pense avoir le droit de dresser le périmètre du débat public comme si c'était lui qui décidait de tout, qui pouvait tout faire. Alors qu'au contraire, la liberté, c'est la liberté tout court. Tout le monde peut s'exprimer.
Tout à fait, et Philippe, on le voit, l'indignation sélective, c'est-à-dire que, par exemple, dans les cours à l'école, on parle beaucoup des victimes de l'esclavage, les millions de victimes de l'esclavage, mais est-ce qu'on parle des millions de victimes de Staline, de Mao, des régimes de gauche totalitaires? On parle très peu de ça dans les cours.
Ben, c'est minimisé. Puis ça, ça vient peut-être du fait qu'on vit une espèce d'ère de religion du progrès, puis le communisme sévissait sous le nom du progrès. Donc souvent, on va expliquer que le communisme, c'est une bonne idée de départ, mais qui s'est mal appliquée. Tandis que le nazisme, par exemple, c'est une très mauvaise idée dès le départ.
C'est ça, c'est ça. Mais Mao, c'est rien que trompé un petit peu. Bon, il y a eu des millions de morts, mais quand même, là, son fond était bon. Les idées qu'il défendait étaient bonnes.
Mais c'est ça, mais c'est parce que je crois que le communisme est quand même proche avec la religion du progrès. C'est elle, puis c'est l'Union soviétique, rappelons-nous, qui a donné naissance à l'antifascisme, à la stratégie de communication antifasciste. Donc, je pense qu'il y a encore un lien, il y a encore une forme de complaisance envers justement ce qu'a fait l'Union soviétique. Donc, c'est certain que c'est un peu dommage parce que je crois que tous les totalitarismes sont totalement néfastes. En fait, c'est bien pire que ça, ils sont barbares. Là.
Ben oui, tout à fait. Mais bravo, Philippe Lorange, j'ose le dire, t'es un des premiers là à tirer la sonnette d'alarme. Là, parce que soudainement, c'est une chroniqueuse de la presse, Isabelle Laché, qui a dit il y a de la censure, tout le monde dit « Ah! Il y a de la censure, oui. C'est écrit dans la presse, c'est vrai. » Je m'excuse, mais Philippe l'avait écrit bien avant tout le monde. Mathieu Bock-Côté l'avait dit bien avant tout le monde, mais là, ça prend la bénédiction de la presse pour que soudainement ça devienne une vérité. Là, bon, ben bravo, tu as eu la bénédiction de la presse, tu es béni maintenant par la presse. Philippe Lorange, merci beaucoup, continue ton travail.
Bonne journée.
Étudiant en sciences politiques et philosophie à l'Université de Montréal.